Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Céline Landon, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre sur donc, le burn-out maternel, épuisement spirituel, 9 semaines avec Dieu. Vous êtes mariée, vous êtes maman de 5 enfants, fondatrice de l'association 1001 Bonheur et auteur. Comment est-ce que vous définissez le burn-out ?
Alors, pour moi, le burn-out, dans mon livre, c'est vraiment pour les mamans un épuisement qui va s'installer petit à petit, en fait, sans même qu'on en ait conscience, qui va faire que les mamans voilà, sont de plus en plus fatiguées, on va de plus en plus crier, on va vivre des difficultés dans notre quotidien, presque sans s'en rendre compte, en fait, hein, et se retrouver à un moment donné vraiment sans force, avec un épuisement qui est vraiment total. Mais voilà, comme toutes les mamans, on va essayer de s'en sortir, donc de continuer à avancer, de continuer à faire, de vouloir faire les choses le plus parfaitement possible. Et du coup, cet épuisement va s'auto-entretenir, on va dire. Je définirais un peu comme ça, en fait.
Finalement, qu'est-ce qui a motivé pour vous l'écriture de ce petit guide de 9 semaines pour les femmes ?
C'est mon expérience personnelle, en fait, pour mon 4e enfant. J'ai été vraiment très fatiguée, en fait c'était un bébé qui ne dormait pas beaucoup, qui était beaucoup malade et en fait je voulais vraiment faire les choses bien, en plus c'est vrai que de formation je suis éducatrice de jeunes enfants, donc j'avais aussi un idéal pour m'occuper de mon bébé, j'avais déjà 3 autres enfants qui fait que j'étais censée savoir faire, savoir être avec mon enfant et cet enfant-là me désarçonnait beaucoup. Et en fait petit à petit je suis tombée vraiment dans un grand épuisement, voilà, une espèce de lassitude. L'impression de ne pas y arriver, l'impression de ne pas savoir faire, de ne pas comprendre mon enfant. Et vraiment, suite à cette expérience-là, j'ai voulu déjà m'en sortir. Donc j'ai lu beaucoup d'ouvrages qui pouvaient m'aider au niveau de la maternité. Et puis je me suis aussi rapprochée du site des Fabuleuses au foyer. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les auditeurs connaissent.
Oui, avec Hélène Bonhomme, oui.
Voilà, et qui m'a beaucoup parlé. Donc j'ai suivi en fait les formations que donnait Hélène Bonhomme. Et tout ça, mis bout à bout, en fait, ça m'a vraiment aidée petit à petit à prendre confiance, à mettre des choses en place aussi dans ma vie pour alléger en fait un peu mon quotidien et pour retrouver une relation sereine avec mon enfant. Ce livre, il est vraiment fait pour les mamans qui se sentent parfois à bout, épuisées. C'est un peu tabou, des fois on n'ose pas le dire, on n'ose pas dire qu'on n'en peut plus. Et en fait, c'est le pas qui est décisif pour pouvoir au contraire s'en sortir, pouvoir en parler et puis s'appuyer aussi sur la foi pour faire ce pas avec Dieu, pour aller plus loin en fait.
Pouvoir en parler, là vous nous parlez de beaucoup de démarches personnelles que vous avez pu faire. Comment est-ce que vous vous êtes sentie encadrée, soutenue par vos proches ?
Il y a eu deux choses différentes, c'est-à-dire que j'ai été soutenue par des amis déjà proches, à qui j'ai pu parler que ça n'allait pas, que j'étais fatiguée, etc. Donc la première chose qui s'est passée par exemple, c'est que j'ai demandé de l'aide, notamment au début d'après-midi, à plusieurs personnes sur je crois 2 ou 3 semaines, quasiment tous les jours, pour qu'il y ait quelqu'un qui parte avec mon bébé, le promener, l'emmener, faire un tour, pour que je puisse dormir. Donc ça a été la première chose que j'ai fait. Après, il y a un soutien par la parole, la présence des amis. J'ai aussi reçu des incompréhensions de certaines personnes qui ne comprenaient pas que je pouvais être mal à ce point. Donc il y a eu un peu un double mouvement, on va dire, entre vraiment les amitiés sincères, vraies, et puis les gens qui ont vraiment compris et qui m'ont soutenue, et puis d'autres personnes voilà, qui n'ont pas vraiment compris ce qui se passait en fait. Pour eux, c'était un peu incompréhensible.
Dans le titre du livre, Burnout maternel et épuisement spirituel, vous associez les deux. Donc le burn-out d'une maman et puis un épuisement spirituel, pour vous les deux étaient liés ?
C'est-à-dire que oui, parce que comme on se sent mal, on se sent nul, on se sent incompétente, enfin moi, c'est vrai, alors je priais quand même, mais c'est vrai que la prière avait un peu disparu de mon quotidien, j'avais l'impression de plus arriver à prendre le temps. Avant, c'est vrai que je prenais du temps de prière tous les jours, là j'arrivais plus, j'étais tellement fatiguée que je criais sur tout le monde, donc l'impression de pas être, on va dire, connectée avec les valeurs évangéliques, entre guillemets. Voilà, on est censé être dans la douceur, dans le pardon, et en fait, moi j'ai l'impression d'être dans tout le contraire. Et du coup, c'est ça qui fait que j'associe un peu les deux, c'est-à-dire que comment, quand on est dans l'épuisement physique et émotionnel, comment est-ce que justement ne pas tomber dans du coup je ne prie plus et voilà je laisse ma foi de côté parce que j'en peux plus et au contraire se raccrocher à ça pour pouvoir se remettre debout en fait. Donc tout le livre est vraiment un cheminement spirituel pour pouvoir s'appuyer sur sa foi, s'appuyer sur les textes bibliques, voir qu'on n'est pas seul, parce que dans la parole, il y a je ne sais combien de textes qui parlent aussi de cet épuisement, ou de l'inquiétude, ou est-ce qu'on a porté son fardeau, comment trouver la joie en toutes circonstances, enfin tous ces textes-là. Donc s'appuyer sur le texte de l'Écriture, justement pour se connecter un peu au Seigneur, qui n'est pas loin en fait, et qui est même en nous, et qui va petit à petit nous remettre debout.
Pourquoi un guide en 9 semaines ?
Alors 9 semaines après, voilà, c'est 9 semaines de prière. Alors c'était aussi pour faire écho à mon premier ouvrage qui était 9 mois avec Dieu, c'est comme une gestation. 9 semaines, voilà, c'est aussi se laisser du temps pour chaque semaine méditer un texte et vraiment mettre en pratique des choses dans sa vie. Ça peut être, on peut le lire plus rapidement, hein, l'ouvrage, on peut le lire tous les jours, un texte, etc. Mais c'est vrai que j'ai souhaité vraiment faire 9 semaines pour pouvoir laisser le temps. Surtout quand on est épuisé ou qu'on a beaucoup de choses dans nos journées. Parfois, voilà, il nous faut du temps. L'idée, c'est vraiment de prendre du temps semaine après semaine pour se mettre à l'écoute de la parole, pour voir comment ça résonne en moi et comment je vais pouvoir mettre en place des petites choses dans ma vie. Voilà, après ces 9 semaines, de pouvoir se remettre un petit peu debout, en tout cas, voilà, avoir pu prendre ce temps. Et puis chacun a son rythme, hein, après ces 9 semaines, mais effectivement, il y a des mamans qui peut-être le feront qu'une fois toutes les 2 semaines et ça durera plus longtemps. C'est juste pour donner un rythme, quelque chose pour que les mamans puissent se poser en même temps en prenant du temps et en même temps d'une façon régulière. Voilà, pour vraiment être dans la méditation et pas dans le lâcher de toute pratique spirituelle.
Dans le livre, chaque semaine correspond à une situation. On commence par l'épuisement, il y a l'inquiétude, il y a le fait de porter les fardeaux, vous en parliez tout à l'heure. À quoi ça correspond ? Est-ce que ça correspond à vos propres étapes personnelles ? Est-ce que c'est chronologique ?
C'est pas forcément chronologique, parce que bon, après c'est souvent simultané, hein, c'est-à-dire que l'épuisement va souvent avec l'inquiétude, va souvent avec porter son fardeau. Mais c'est vrai que dans les différents chapitres, il y a quand même une évolution, puisque voilà, le dernier chapitre porte sur la joie en toute chose, l'avant-dernier sur choisir la vie. Il y a aussi cette idée de retourner à la vie, de se laisser aimer, de trouver la paix. Donc petit à petit, c'est quand même un cheminement qui se fait. Voilà, même si les thèmes se suivent, c'est pas forcément chronologique pour moi dans ma façon de m'en être sortie. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment être simultané. On peut ressentir vraiment les différentes choses en même temps. Mais c'est comme un cheminement spirituel qui va nous amener justement vers plus de joie et vers plus de vie. Voilà, parce que je voulais vraiment finir cet ouvrage dans l'espérance en fait, l'espérance de la vie, l'espérance de la joie, de la paix intérieure qui dure et sur lesquelles on peut s'appuyer.
Chaque chapitre se découpe en un épisode biblique, donc en un texte biblique, en un témoignage, souvent votre interprétation, votre manière de voir cet épisode biblique, et en une prière. Comment est-ce que vous imaginez l'utilisation de cet outil par les femmes ?
L'idée, c'est vraiment de prendre un temps chaque semaine pour se poser autour de la parole. Donc c'est vraiment lire la parole, la méditer, la savourer, et voir comment ça résonne en moi, et dans le commentaire que j'en fais, voilà, laisser ce commentaire aussi résonner en moi, et voir comment moi j'interprète, mais voilà, je vis les choses dans mon quotidien. La prière, c'est vraiment se mettre à l'écoute du Seigneur, prendre le temps de se mettre à genoux, pour prier et pour voir aussi comment lui, il va me parler, qu'est-ce qu'il va me dire à travers cette parole, à moi personnellement. Moi, je m'appuie soit sur des chants, sur des psaumes, sur des prières qui existent déjà, ou des prières que j'ai moi-même composées. Mais c'est vraiment pour un élan du cœur, en fait. Donc, il y a la lecture, la méditation, il y a le fait d'essayer de comprendre ce que veut me dire cette parole à moi, et puis il y a comment je vais me mettre en relation avec le Seigneur. Et je termine toujours les chapitres par un petit témoignage qui n'est pas du tout un exemple à suivre, mais pour donner voilà, une petite saveur personnelle, comment est-ce que moi, personnellement, dans ce texte, ça m'a parlé. Voilà, pour pouvoir donner une petite direction. Et après, chacun va voir comment ça résonne en lui. C'était ça l'idée, vraiment.
Vous-même avez été confrontée à ce phénomène du burn-out maternel, alors vous aviez déjà eu d'autres enfants avant. Est-ce que vous pensiez que ça pouvait vous arriver? Et plus globalement, finalement, est-ce qu'il y a des profils à risque pour le burn-out maternel, ou est-ce que ça peut tomber sur Madame Tout-le-Monde?
Je pense clairement que ça peut tomber sur Madame Tout-le-Monde, parce que je me considère pas... Enfin, je pense que je suis un peu Madame Tout-le-Monde. Bon, après, les profils à risque sont les femmes qui ont beaucoup d'exigences envers elles-mêmes, je pense, qui ont vraiment cette recherche de perfection et de perfectionnisme dans leur vie quotidienne. Plus on se met la pression, plus on a un risque de tomber dans le burn-out. Après, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas du tout. Il y a comme je disais, moi, c'était un bébé qui dormait très peu dans la journée, dormait par tranche de 20 minutes. Donc, en fait, je ne pouvais jamais récupérer. Je ne pouvais pas m'endormir. Dès que je commençais à m'endormir, hop, il se réveillait. Un enfant toujours malade, voilà, ça, c'est des facteurs extérieurs que je ne pouvais pas prévoir, en fait. Un enfant différent des autres, qui ne réagissait pas pareil, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, prévisible. Si on peut parler de facteur à risque, c'est toute cette imprévisibilité qui peut arriver dans nos vies de maman et qui arrivera de toute façon et qui arrive à toutes. Après, c'est comment est-ce que je me situe face à ça ? Est-ce que je vais pouvoir prendre du recul, me faire aider, accepter l'aide extérieure, accepter d'être fatiguée, accepter de lâcher prise ? Ou est-ce que je vais m'accrocher en me disant « non, je veux à tout prix y arriver ». Cette recherche de perfection, en fait, que nous, les mamans, on est très très fortes pour chercher. Et voilà, si je peux caractériser, si une personne à risque, voilà, c'est vraiment ces personnes qui... Et on est très très nombreuses, donc je pointe du doigt personne parce que j'en fais partie et je pense que beaucoup en font partie. Cette recherche de dire, je me mets la pression en fait pour réussir mon enfant. En plus, on est dans une génération où voilà, normalement quand on a un enfant, on l'a prévu, donc on a envie d'avoir cet enfant. Et le fait de ne pas y arriver, c'est quelque chose qui est très dur en fait pour une femme. Voilà, donc c'est vraiment arriver à lâcher prise et à se dire, ben voilà, si j'y arrive pas maintenant tout de suite, si c'est pas inné, si j'ai besoin de temps, c'est normal aussi et je ne me mets pas la pression, je prends le temps en fait de me mettre en relation avec mon bébé, je prends le temps de vivre avec lui, si tout n'est pas parfait c'est pas grave, si ma pile de linge traîne, si y a pas de repas prêt ce soir et qu'on mange des conserves ou si voilà, c'est pas grave, c'est comme ça et je suis quand même la meilleure maman qu'il faut pour mon enfant. Je pense que c'est vraiment la clé pour ne pas tomber dans ce burn-out profond en fait, qui peut arriver à tout le monde.
Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? Quels sont-ils ? Comment est-ce que, en tant que maman ou même l'entourage des parents peuvent se dire « Attention, là, je pense que tu es sur une pente glissante. »
C'est difficile parce qu'on a toujours du mal à s'en rendre compte. Et puis, c'est difficile aussi d'accepter que d'autres puissent nous dire ça. C'est vraiment voilà, très délicat. Je pense que le signe, en fait, les mamans, elles le savent, c'est l'épuisement total. C'est le fait... Et puis, alors, il y a l'épuisement, il y a le fait, par exemple, de pleurer tout le temps, de ne pas accepter de ne pas y arriver. L'impression d'avoir vraiment un gros fardeau sur les épaules, d'avoir quelque chose, même physiquement, qui nous pèse. Ça se manifeste différemment selon chacune, mais notre corps parle. Et c'est important d'écouter les signes du corps, voilà, le fait d'avoir la boule dans la gorge, le mal de dos, les dos qui se bloquent, les choses comme ça. Ce sont des signes que bah, ça ne va pas très bien.
Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand ça nous arrive ? Vous disiez tout à l'heure lâcher prise. Comment on fait pour lâcher prise ?
C'est difficile. C'est difficile de lâcher prise. Moi, la première chose qui me vient, c'est accepter l'aide extérieure, demander de l'aide. Moi j'ai pu le faire face à des amis par exemple, de dire bah là je suis vraiment épuisée, ça va pas, est-ce que certaines personnes pourraient venir m'aider? Alors voilà, ces personnes de l'église par exemple qui se sont relayées, j'avais listé en fait plusieurs personnes qui pouvaient m'aider ou demander à des amis d'apporter un plat tout fait le soir pour pas avoir à faire la cuisine. Donc la première chose qui me vient, c'est vraiment ne pas avoir peur d'être vulnérable et ne pas avoir peur de demander de l'aide pour une période donnée parce qu'on en a besoin. C'est pas parce qu'on en a besoin à un instant T qu'on en aura besoin toute la vie et c'est quelque chose en plus qu'on pourra rendre à d'autres après. Que faire d'autre ? Arrêter de se mettre la pression et se dire c'est pas grave si je suis en pyjama à midi, c'est pas grave si j'ouvre la porte au facteur en pyjama, c'est pas grave si j'ai un peu de lait sur mon t-shirt, c'est pas grave si je suis pas parfaite dans mon apparence et dans ma maison, si ma maison est en bazar, je laisse, c'est pas grave, l'important c'est ma relation avec mon enfant et qu'on puisse développer une bonne relation, le reste ça passe après. C'est ce que Hélène Bonhomme appelle le courage ordinaire, de savoir dans sa vie quotidienne ne pas se mettre la pression et au contraire avoir cette sorte d'imperfection heureuse pour être simplement soi. Au niveau de la foi, voilà, c'est aussi croire que le Seigneur est puissant dans notre faiblesse et donc dans la Bible, justement, il y a des textes qui montrent comment le Seigneur choisit et intervient dans la vie de personnes qui sont faibles et qui ne choisit pas, même en tant que grand prophète, les gens forts, mais les gens faibles. Et donc, même dans notre faiblesse, en fait, Dieu nous a choisis pour être la maman de cet enfant-là. Et donc, de se le rappeler, c'est très important de se dire « Dieu ne m'a pas choisi pour être maman parce que je suis parfaite, mais il m'a choisi parce que j'étais la meilleure personne au monde pour m'occuper de cet enfant-là ». Donc c'est simplement ça, voilà, se laisser faire, se laisser chérir, se laisser aimer aussi par les gens qui sont autour de nous, voilà, je dirais.
Quel est l'impact de la foi ? J'ai envie de dire, le titre parle aussi d'épuisement spirituel. Pourquoi c'est important de s'ancrer dans sa foi quand on vit une situation comme ça ?
C'est de se replacer face au Père, en fait, qui nous aime. Parce que je me dis, quand on est dans cette phase de, un peu de burn-out, en tout cas d'épuisement, en fait, on se sent nul, on se sent pas à la hauteur. Et de se replacer face à ce Père qui nous aime et qui, lui, a confiance en nous, en fait, ça change tout. De se dire, par exemple, il y a un texte que je cite dans le Cantique des Cantiques où le Seigneur va dire vraiment « ma toute belle, ma colombe », voilà, enfin, en tout cas, on peut l'interpréter comme ça, comme si le Seigneur nous parlait. Et en fait, de se retrouver, nous qui nous sentons, on se sent si moche, si voilà, pas belle, quoi, pas à la hauteur, d'entendre le Seigneur qui nous dit ça, ça nous replace face à notre vraie vocation. Notre vraie vocation, c'est pas juste d'être voilà au milieu des couches, ça va, cette période-là, elle va passer. Le Seigneur, il nous voit au-delà de ça. Moi, ce qui m'a aussi aidée, par exemple, c'est la louange, c'est de pouvoir mettre des CD de louange. Même des fois, je partais sur les chemins en pleurant et je me disais, ben voilà, je vais prendre un chant de louange. Alors, ça n'empêchait pas d'avoir les larmes, en fait, mais ça me resituait face au Seigneur qui m'aime tel que je suis, qui veut me donner la vie, en fait. Donc, c'est en cela que la foi vraiment peut nous aider à nous remettre debout, à nous remettre vers l'essentiel. J'avais à un moment donné, j'ai pris le texte de Marthe et Marie, c'est vraiment Jésus qui dit à Marie, tu as choisi la meilleure part en te mettant au pied du Seigneur, mais c'est ça qu'on a à faire quand on est aussi épuisé. Ne pas s'agiter comme Marthe dans tous les sens, mais de se remettre au pied du Seigneur pour être dans l'essentiel de notre vocation, qui est vraiment d'être fille du Père.
Aujourd'hui, Aline Landon, vous allez mieux, j'espère, en tout cas. Quel regard vous portez sur tout ce qui vous est arrivé, sur tout ce burn-out, surtout peut-être aussi la pression qu'on peut mettre sur les mères aujourd'hui. Quel regard vous portez maintenant avec le recul ?
Après, oui, je vais mieux, mais l'équilibre, il est fragile. Je pense qu'en tant que maman, on a toujours des phases où l'équilibre est plus ou moins fragile. Enfin, moi, le regard que je porte aujourd'hui, c'est vraiment de se dire cette pression, en fait, que soit la société nous met, ou soit que nous nous mettons nous-mêmes, de pouvoir consciemment la mettre de côté en disant « Non, moi, je choisis le courage ordinaire, je choisis de garder la paix, je choisis l'imperfection, et c'est pas pour ça que je ne suis pas une bonne maman. » Voilà.
Merci beaucoup, Aline Landon, pour toutes ces informations donc, sur ce livre « Burnout maternel et épuisement spirituel » sorti le 6 mars et qu'on a eu le plaisir de vous offrir donc, sur Phare FM Lyon Dauphiné. Un grand merci aussi à l'équipe d'RCF Caen qui a bien voulu nous prêter ses studios pour réaliser cette interview à distance. Merci, Aline.
Merci, à bientôt.